le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Jacques Perrin et Stéphane Durand pour le CD livre Les Contes des Saisons, paru aux éditions Actes Sud Junior, d'après le film Les Saisons, que vous avez peut-être déjà vu, et pour un cahier d'activités qui l'accompagne pour les amoureux de la nature. Et il y a aussi ce qu'on appelle le beau livre. Donc ça fait trois livres, on appelle ça des objets dérivés de ce film, Les Saisons, dont nous allons parler, et tous sont parus aux éditions Actes Sud Junior. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui aussi avec Élodie Chaumette et sa cueillette de livres dans la forêt de l'édition Jeunesse. Oui, j'ai été un petit peu influencée par ma vision des saisons. Je suis très nature aujourd'hui. De passage à Paris, Carmela et son grillon Negrito m'ont invité à une promenade sur les bords du canal de l'Ourcq, dans le parc de la Villette. Je sentais bien que ces deux petits montagnards étaient en manque de feuillage, de ciel sans limite, de chants d'oiseaux. Donc, je les accompagnais. Tout se passait à merveille. Negrito voletait de nos cheveux à des arbustes bien taillés et Carmela gambadait dans l'herbe au mépris des panneaux d'interdiction pour pelouse en repos. Je demandais donc à Negrito d'expliquer à son ami le pourquoi de cette interdiction, ce qu'il fit sans rechigner pour une fois. J'étais presque étonnée. Carmela abandonna donc les pelouses pour se rapprocher du canal. Mais pourquoi ne voit-on aucun poisson ? Se plaignit-elle bien vite. « Regarde mieux, je suis certaine que vous en verrez, car il y a souvent des pêcheurs dans le coin. Et puis, vous qui me brocardez sans cesse pour mon manque de patience, je vous renvoie le compliment. Patientez, vous allez en voir. » Mes deux petits amis ne répliquèrent pas et poursuivirent leur promenade en scrutant l'eau du canal. Ils étaient assez loin devant moi quand je vis Negrito, le grillon, se précipiter à ma rencontre en criant « Vite, vite, viens voir, c'est horrible !» Plus loin, je voyais Carmela s'agiter comme une forcenée point levé. Je me mis donc à courir pour la rejoindre, toujours précédée par le grillon. Mais que vous arrive-t-il? Où est l'horreur qui vous met dans de tels états? Mais là, regarde, regarde, on ne voit même plus la surface de l'eau tellement il y a des canettes, des bouteilles, des sacs plastiques, des ballons crevés. Oui, je sais, bon, oui, j'ai l'habitude de venir me promener ici. C'est l'angle que prend le canal à cet endroit, qui fait une sorte de retenue et qui concentre toutes ces saletés, en effet. Et c'est tout ce que cela te fait, cette rangla Negrito. Oui, enfin, non, mais que faire? Comment cela, que faire? Reprit Carmela. Tu ne comprends pas que les canards, les mouettes, les poissons sont chassés par un tel dépotoir? Si, bien sûr, mais je n'eus pas le temps de finir ma phrase qui s'annonçait vaseuse, tellement j'étais prise de court devant leur colère et leur chagrin. Negrito enchaîna. Moi, je sais ce qu'il faudrait faire pour que les gens comprennent. Il faudrait repérer là où ils habitent et s'introduire dans leur salon et cracher, uriner, vomir sur leurs tapis et leurs moquettes. Ah, bonne idée, s'enthousiasma Carmela soudain joyeuse, et aussi vider les cendriers et les poubelles sur leur lit. Le temps buissonnier, ça devrait être un titre qui vous plaît, Jacques Perrin, parce que vous essayez de prendre les chemins buissonniers de votre vie, d'ailleurs, qui vous a amené de comédien à producteur, producteur d'ailleurs de films très engagés. Je pense à Costa Gavras, Z, et la section spéciale, je crois, et bien d'autres. Comédien, théâtre, télévision. Et puis aussi producteur et auteur de films, et notamment Océan, Le Peuple Migrateur, Microcosme, le Peuple de l'Herbe, pour lesquels vous avez été oscarisé. Donc une carrière qui vous a amené dans des endroits très divers. Comment sont arrivés ces films et ce goût pour la nature?
Mais ces films sur la nature, nous avons pris des chemins de traverse. Avec Jacques Clouzot, nous faisons ces films à deux, et puis aussi avec la contribution, collaboration de
Stéphane Durand.
Stéphane Durand. Et parce que, après tous les films qui étaient engagés, je trouve aussi que dans les films que nous faisons sur la nature, c'est aussi un engagement. C'est quand on voit la façon dont nous vivons dans les cités, au bord des trottoirs, de tout ce qui est construit en béton, de temps en temps, on a l'impression que ce serait bien de prendre le large, de suivre non pas une autoroute, mais un sentier de campagne, et puis d'aller respirer le bon air. Et quand on respire le bon air, automatiquement, ça rafraîchit aussi l'essence, la perception, la sensibilité. Et là, on commence à imaginer des histoires. Et les histoires, bien souvent, de la nature, elles sont écrites déjà dans la nature. On ne fait que les observer, de les entendre. Vous savez, quand on est au cœur d'une forêt, quand on entend tous les gazouillis, quand on entend tous les chants sonores de tous ces oiseaux, et que des personnages, des mammifères furtifs passent devant vous, on se dit, c'est tout un domaine de sonore, c'est tout un domaine de visualisation, de représentation, qui vaudrait bien la peine d'en faire des histoires, des films, et puis comme Stéphane Durand aussi, d'en faire quelques récits. Parce que je trouve que ça nous manque un peu. Je crois que la poésie, elle est là quand on va la chercher, quand on la décèle. Elle n'est pas souvent apparente, mais quand on regarde entre les branchages, entre les feuillages, quand on regarde en fonction des saisons et du temps, de la météo, il y a quand même tout un ensemble de choses où, malgré nos âges, pour les miens, ils sont importants, eh bien, on est toujours émerveillé, on est toujours à ouvrir notre imaginaire.
Et même une nuit étoilée, on ne voit plus les étoiles à Paris. C'est fini ? Il n'y a plus de ciel ?
On les voit beaucoup moins. De temps en temps, si, on les voit. Mais c'est vrai qu'il faut être véritablement vigilant. Il faut dire ce soir, même si je ne vois pas, peut-être qu'à 4 heures du matin, elles vont se découvrir. Et c'est ce qui fait que, voilà, le bel univers dans lequel nous sommes se dégage de temps en temps.
Et c'est sans doute pour ça que vous avez choisi Noctiluca pour ouvrir le conte des saisons. Alors, le conte des saisons, c'est un album paru aux éditions Actes Sud Junior. Stéphane Durand, qui est donc scénariste, mais aussi auteur jeunesse, et Claire de Gastold, qui, elle, a fait les illustrations. Et le conte qui va nous permettre de suivre et de retrouver un petit peu les animaux que l'on croise, évidemment, dans le film Les Saisons. Alors, vous aimez conter ? On va vous écouter. Ça, c'est un exercice particulier pour un comédien.
Je ne peux pas dire que je le fais souvent, mais en tout cas, quand toutes les choses s'additionnent, donc autour du film, il y a tout un ensemble de travaux que nous menons. Et donc, ça peut être l'écriture, ça c'est Stéphane qui s'en occupe, mais aussi l'imaginaire. Ce livre dont vous parlez, il y a des illustrations qui sont formidables. Ce sont des histoires immédiates dans les croquis de ces animaux, dans les environnements de nuit et autres. Il y a une poésie qui se dégage tout à fait formidable. Donc, c'est toujours la même chose, que ce soit d'une façon sur des livres, dans des films, par des poèmes. D'ailleurs, même, je trouve que nos films ne sont pas tellement des documentaires que des poèmes cinématographique.
Alors, on va écouter ce conte, on va écouter pas tout à fait le début, Noctiluca va nous guider, et c'est comment l'homme fut sauvé par les animaux.
Lorsque les rennes étaient les rois des animaux, ils parcouraient des milliers de kilomètres d'un bout à l'autre de leur royaume de glace à la recherche de pâturages et d'un endroit paisible où donner naissance à leurs petits. Ils avançaient serrés les uns contre les autres pour ne pas être culbutés par des vents hurlants qui les bombardaient de cristaux acérés. Leur devise, marcher ou mourir. Le voyage était toute leur vie. Un jour qu'ils grattaient la neige pour libérer le lichen dans une vallée perdue, ils trouvèrent un petit groupe d'animaux très étranges venus de l'Est. Ils étaient tout maigres et nus comme des vers. Ils étaient laids, puants, bruyants et partageaient une charogne avec les hyènes et les vautours. C'étaient des hommes, ainsi qu'ils s'appelaient eux-mêmes. Ils ne savaient ni galoper, ni grimper, ni voler. Leur vue était médiocre et leur ouïe plus mauvaise encore. Quand les rennes les découvrirent, ils étaient pelotonnés les uns contre les autres, grelottant dans la neige. si bien que les reines eurent pitié d'eux et leur offrirent des fourrures pour leur tenir chaud. Les hommes étaient des créatures à la fois repoussantes et fascinantes. Ils marchaient debout sur leurs pattes arrière, ce qui était déjà en soi un prodige, mais ils chantaient aussi, dansaient, riaient, racontaient des histoires captivantes, inventaient des jeux, parlaient à des fantômes, passaient des jours entiers enfermés dans des grottes disputées aux ours et aux lions, à peindre sur les parois de pierre et surtout, ils maîtrisaient le feu. En ce temps-là, les reines étaient vraiment très nombreux et les hommes étaient très rares, plus rares encore que les mammouths. Quand les reines croisaient un homme sur leur chemin, c'était à chaque fois un véritable événement. Les loups aussi étaient très nombreux et eux aussi prirent les hommes en pitié et ils leur apprirent à chasser. En fait, tous les animaux qui rencontraient les hommes étaient attendris par leur maladresse et leur gesticulation extravagante. À cette époque, personne n'aurait parié sérieusement sur l'avenir des hommes. Ils semblaient si mal engagés dans la vie, si handicapés que tout le monde était persuadé que leur temps était compté. Pourtant, lorsque le réchauffement climatique balaya tout le pays et liquida l'énorme glacier, tous les animaux disparurent, tous sauf les hommes. Grâce aux rennes et aux loups, ils avaient survécu au terrible hiver. Ils se retrouvèrent tout seuls face à des arbres qui poussaient partout comme des champignons et ils furent à nouveau bien démunis. Qu'allaient-ils faire dans cette forêt? Heureusement, les arbres n'étaient pas arrivés seuls. Ils avaient entraîné à leur suite une ribambelle de nouveaux animaux qui, à leur tour, s'émurent du triste sort des hommes. Ils leur apprirent à reconnaître les richesses de la forêt. L'écureuil leur apprit à grimper dans les arbres et à casser les noisettes. Le castor leur enseigna l'art de la menuiserie, certes un peu sommaire, mais efficace. Le merle leur montra comment entrelacer des branches souples pour confectionner un nid ou une cabane. C'est ainsi que les hommes furent sauvés une nouvelle fois par les animaux. Et un jour, bien plus tard, ils se sentiraient assez forts pour transformer le monde. Mais ça, c'est une autre histoire.
Jacques Perrin, votre voix pour accompagner ces histoires. Alors pour moi, le roi de la forêt, de nos forêts, c'est le lynx. Je viens d'une forêt de la Haute-Ariège où il y a encore très très rarement des lynx. En tout cas, dans ma vie, j'en ai croisé très rapidement deux fois. J'étais très petite et après j'étais très jeune, à la vingtaine d'années. Et c'est un souvenir, d'abord une peur, parce que je ne m'y attendais pas. Et c'est impressionnant, un lynx.
Vous avez eu une chance immense.
Hein. C'est magnifique.
Peu nombreux sont ceux qui peuvent voir des lynx en pleine liberté. Hein. Ne serait-ce que par la pression de l'homme. Hein. Soit ils ont été enlevés, soit ils ont été décimés. Donc je ne sais pas quel est le nombre qui existe encore en France. Mais c'est une petite
Stéphane
poignée.
Stéphane Durand, vous le savez.
Une petite centaine.
Il y a des gens qui passent leur vie à essayer de voir le lynx. Ouais. Vous l'avez vu deux fois.
Et finalement, assez rapidement, en 20 ans.
En 20 ans, je l'ai vu deux fois. Ouais. Enfin, disons en 15 ans, quoi, à peu près.
Prince qu'il tire les temps vissonniers à l'infaillé.
Bien, alors on va continuer. Je voulais quand même m'adresser là à l'auteur Stéphane Durand et au scénariste. Les saisons, c'est donc, on l'a vu, ce livre de contes, dont les contes sont dits par Jacques Perrin, et c'est aussi ce que vous appelez un beau livre, où là on va retrouver beaucoup des photos du film. Mmh. Et d'ailleurs je trouve que la force de la photo, après avoir vu le film, la force de la photo est parfois plus importante que celle de l'image animée. Il y a des photos magnifiques dans ce livre. Et notamment, par rapport à tout ce qu'on vient de dire avec Jacques Perrin, il y a la photo de, puisqu'on vient de parler des hommes et de la cohabitation des hommes des forêts et des animaux. Cette photo au milieu du livre d'une campagne qui est cultivée, mmh, avec la douceur des collines, avec les petits bosquets, avec l'alternance des terres en friche, des terres cultivées, qui est d'une beauté, bon, qui peut faire penser à la Toscane par exemple, d'une douceur et d'une... quelque chose qui semble universel. Or, c'est l'homme qui l'a dessiné. C'est pas, on se dit la nature est belle, mais là c'est une nature complètement dessinée par l'homme. C'est troublant ça, parce qu'on rêve de nature sauvage, et parfois la nature cultivée par l'homme est plus belle. Ou tout aussi belle.
Oui, la nature cultivée, ou un rapport, une collaboration entre l'homme,
oui, c'est très
et la
émouvant,
nature.
Ça.
Oui, et la photo auquel vous faites, à laquelle vous faites référence, oui, symbolise un paysage de la campagne gallo-romaine. Et ça a été extrêmement compliqué pour trouver un paysage comme ça et faire la séquence. C'est pas très loin de Lyon, c'est dans les monts du Lyonnais. Et il a fallu tout d'abord travailler avec des archéologues, des archéobotanistes, des gens qui travaillent sur la paysannerie au temps des Romains pour savoir comment ils plantaient, quels arbres ils plantaient, quelles plantes ils plantaient, puis est-ce qu'ils les plantaient en ligne, en paquet. Il a fallu retourner à toutes ces connaissances, puis après retravailler le terrain.
Ça veut dire que vous avez fait planter de cette manière-là pour retrouver le paysage gallo-romain.
Voilà.
Ah, mais ça, excusez-moi, hein, mais vous voyez, on me surprend.
Non. Donc Jacques disait à l'instant,
ce film, il a duré moins de 2 ans. C'est peu par rapport aux autres tournages que nous avions réalisés. Dans Le Peuple Migrateur, c'était 4 ans, et dans Océan, c'était pratiquement 5 ans. Mais 5 ans pour pouvoir filmer le caractère inattendu, le caractère sauvage de la nature, eh ben, il faut être patient, attendre, parce que ça se, parce qu'il n'y a pas simplement d'attendre le comportement, il y a l'environnement, il faut que l'éclairage soit très bon, il faut que la technique et les techniciens soient prêts, et que les animaux le veulent bien. Donc c'est tout un ensemble de paramètres qui réunit, des fois il faut attendre 15 jours, 3 semaines avant d'avoir une séquence.
Jacques disait tout à l'heure que le film n'était pas un documentaire, mais par contre il est extrêmement documenté. Donc chaque moment du film, chaque période, il y a 20 000 ans, il y a 15 000 ans, il y a 10 000 ans, et comme ça jusqu'à aujourd'hui, tout a été extrêmement fouillé avec les meilleurs spécialistes du muséum, des laboratoires, des universités, pour pouvoir déterminer le paysage exact de tel pays à telle époque, quels sont les animaux, quelles sont les plantes qui vivaient à ce moment-là, comment, quelles étaient leurs interactions. Il y a eu un énorme travail de documentation.
Alors vous avez, donc il y a des pages, on ne va pas toutes les tourner, mais je me suis arrêtée sur ces 2 pages sur la chasse à cour, et je me suis dit qu'elle n'est toujours pas interdite. Non. Je me suis posé la question.
Non.
Parce que dans le film, comme dans le livre, on le voit moins, mais c'est d'une cruauté sans nom. Quand vous avez filmé la poursuite de la meute de chiens, après vous avez caché la caméra, vous avez éteint, on n'a pas vu le massacre.
Alors curieusement, c'est la chasse la plus proche de ce qui se passe dans la nature en fait. Au début du film, on voit des loups sauvages qui courent après des chevaux sauvages pour essayer d'attraper un cheval et le manger. Et ben quand les chiens courent après un cerf, ils reproduisent exactement le même comportement. Ce sont les chiens qui choisissent, qui déterminent le cerf après lequel ils vont courir, et ils courent après ce cerf-là et pas du tout les autres cerfs.
La chasse à cour, enfin, c'est beaucoup plus que ça quand même.
Non. Oui, c'est vrai que c'est devenu un spectacle. On a aménagé totalement la forêt pour que les hommes se régalent au plaisir de regarder les chiens chasser.
Aristocrates ou de nouveaux riches aujourd'hui, quand même. Oui, et c'est toujours pas interdit.
Non.
Ouais, voyez, ça
alors
fait
que ça l'est en Angleterre.
Oui, par exemple, depuis très longtemps.
Ça a été complètement interdit. Oui.
Bon, alors on apprend tout ça parce qu'en plus, il y a évidemment de la pédagogie, des suppléments, les coulisses du tournage d'ailleurs. Mmh. Et il y a un troisième album, très souple celui-là, puisqu'on va pouvoir y dessiner, y crayonner, qui est un cahier d'activité sur le film « Les saisons ». Alors, vous, en tant qu'auteur, comment vous intervenez? C'est vous qui faites les légendes? C'est vous qui trouvez les idées des jeux? Il y en a des super, d'ailleurs, je trouve.
Alors, le livre a été fait à 3. Alors, illustré magistralement par Guillaume Reynard, qui s'est vraiment régalé à faire tous les dessins.
Oui, en plus, pardon, je vous coupe, mais les illustrations de Guillaume Reynard ont ça de formidable, c'est qu'elles donnent envie de crayonner et aussi, nous, de nous amuser à dessiner. Elles ne sont pas écrasantes sorte de... Vous voyez ?
Non. Et puis, c'est pas un livre que pour les enfants. Hein. Ouais. Les parents aussi ont très envie de prendre leur crayon de couleur.
Et les textes, c'est de vous aussi ?
Alors oui, les textes sont de moi. Et la troisième personne a imaginé, a fait le lien entre Guillaume et moi pour imaginer les jeux. Comment, sur telle thématique, on pourrait inventer un labyrinthe, un jeu fléché, les sept différences. Voilà, donc ça a vraiment été un travail à trois très, très sympa.
Alors, voilà, trois livres à la suite d'un film. De quoi se plonger dans le rêve, la nature et la poésie, mais aussi la cruauté parfois. De quoi dire à ses enfants, voilà, on va peut-être essayer d'observer, d'aimer cette nature et peut-être de contribuer à la protéger. Est-ce que c'est un souci que vous avez, vous, Élodie Chaumette, avec vos enfants, de les initier à la beauté du monde et à sa fragilité ?
Oui, bien sûr, et à la fois c'est compliqué quand on vit à Paris, au cœur d'une ville, à la fois de faire découvrir la nature et puis de manger, notamment en accord avec des convictions éthiques qu'on peut avoir. Donc c'est un processus familial de conversation.
Et est-ce que ça passe par les livres, justement, les documentaires, par exemple ?
Mais oui, surtout qu'aujourd'hui, je vais vous parler donc de farce et attrape. Et comme c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé dans cette émission, je voulais vous demander, est-ce que vous n'aimez pas les farces et attrapes ?
Ah, moi j'adore ça, mais je ne l'ai pas abordé parce qu'en général, ça se fait dans le secret. Parfois, on en a honte juste après. Je suis une grande adepte du 1er avril. Je fais toujours des blagues le 1er avril. Toute ma vie, je l'ai fait. Et des canulars. Et d'ailleurs, je viens d'une région où le canular est un art de vivre, le sud-ouest et Toulouse en particulier. Il y a eu un très grand canular littéraire dans l'histoire qui est Clément Cizor. Vous irez voir un petit peu de quoi nous sommes faits dans ce sud-ouest. On adore les canulars et les farces et attrapes.
Ça rappelle Borges, du coup.
Oui.
Et puisque vous aimez ça, donc là, on n'est pas du tout dans la grande littérature, on est dans le documentaire. Et vous serez ravis d'apprendre que les éditions Milan ont sorti un manuel de farces et attrapes.
Milan, c'est des éditions du Sud-Ouest. Ben voilà.
Tout s'explique. Dans leur collection Copain-jeu. Alors, c'est un petit album documentaire qui a été écrit par un couple, Myriam et Nicolas Martel. Et quand même, écrire un livre de farce et attrape en couple, je trouve que ça sonne déjà un peu comme une farce. Alors, l'ouvrage s'ouvre sur 1000 précautions censées protéger les enfants contre la colère potentielle des victimes de leur farce. On apprend ainsi que les 4 qualités du bon farceur sont la prudence, la gentillesse, l'honnêteté et le fair play.
Il n'y a que la prudence qui me manque quand je fais des blagues, personnellement.
Ah bon, moi, il m'en manque plus que ça. Parce que là, j'avais vraiment l'impression qu'on n'allait pas beaucoup s'amuser. Parce qu'a priori, on ne compte pas être gentil et honnête, justement, quand on compte piéger les autres et rire à leurs dépens. Mais c'est probablement juste une recommandation de l'éditeur pour rassurer les parents. Parce que passer ces conseils légèrement rabat-joie, on commence très fort par la farce du poil à gratter qu'il est conseillé de glisser sous le t-shirt de sa victime en vitesse, en loose-dé ou en traître.
Bah, ça on ne s'éloigne pas beaucoup de la nature. C'était nos jeux préférés, mais nous, on n'avait pas autre chose. On n'avait pas de console, donc on avait des jeux un peu bébêtes.
Ensuite, le livre est découpé en 3 chapitres. D'abord, les farces instantanées, à faire sur le vif sans trop de préparation, comme le poil à gratter, justement, mais aussi la bouteille qui fuit ou l'art de sonner aux portes. Bon, c'est à peu près clair pour les auditeurs, je pense. Ensuite, viennent les farces à retardement, pour lesquelles il va falloir attendre un peu, faire preuve de patience, comme le parapluie piégé, qu'on remplit de cotillons jusqu'au jour où il se met à pleuvoir et où la victime se trouve couverte de confettis, de serpentins ou de fleurs. Les chaussures maraboutées.
Ah, c'est pas
quelque chose qu'on bourre avec du coton afin D'accord. que la personne croie avoir grandi des pieds peut-être pendant la nuit. Le dentifrice surprise, etc. Et enfin, une dernière partie aborde les farces de prestige. Alors là, ce sont carrément des mises en scène de spectacles comme un fantôme à roulette. Enfin, ça demande vraiment beaucoup de préparation. Le grand avantage de ce petit album, c'est qu'il donne des conseils très précis et très sérieux pour préparer ces farces et que vous pourrez être certain donc que vos enfants les réussiront avec brio. Et puis, là plus sérieusement quand même, les farces et attrapes, en plus d'être une excellente occasion de faire des travaux manuels, ça développe l'imagination, l'humour. Et puis, alors là c'est un peu la psy en moi qui parle, mais ça permet vraiment de prendre le contrôle sur les adultes et de renverser la situation de domination habituelle
comme pendant le carnaval, dont nous ne sommes pas si loin. C'est le renversement des pouvoirs. Alors, je vois deux autres livres, un très vieux, dites donc, vous êtes allé le chercher au fond de la bibliothèque.
C'est ça, parce que si le sujet vous passionne, je suis au regret, malheureusement, de vous apprendre qu'il n'existe pas grand-chose d'autre sur le sujet que cet opus sorti récemment chez Milan. Mais donc, vous pourrez trouver à la fois chez les brocanteurs ou sur les sites internet dédiés un ouvrage totalement rétro, qui date des années 70 et qui s'intitule Le manuel des farces et attrapes dans la collection Quincajou, qui était une collection chez Gallimard à cette époque. Il a été écrit par un certain A. Crack, un éminent spécialiste des farces et attrapes. Alors, ce manuel-là commence lui aussi par une série d'avertissements, mais sur un tout autre ton. Il ne préconise pas d'être gentil et honnête, mais de considérer la situation selon sa position. Qui est farceur aujourd'hui pourra demain être victime de farce. Ça fonctionne mieux, je trouve, que c'est moins infantilisant, absolument, même si ça s'adresse aux enfants. Tout comme le vouvoiement utilisé dans tout cet ouvrage, que j'adore. C'est un truc que j'aime pas tellement dans la littérature jeunesse aujourd'hui, documentaire, le tutoiement permanent.
Au fait, vous tutoyez dans votre livre c'est à vous, hein, Stéphane Durand, vous êtes celui qui écrit enfants. Non, hein, je crois pas.
Vous
voyez. Très bien. Donc, Mélodie est ravie.
On est d'accord.
On est d'accord.
Alors ensuite, ce sont 50 idées de farces qui sont déclinées, décrites et soigneusement illustrées par un certain Jean-Louis Besson qui cache des farces à l'intérieur de ses dessins.
D'accord, celui-là, il va falloir le chercher chez les bouquinistes, vu l'état. Et enfin, petit dernier, mais rapidement.
Très rapidement. Alors, ce sont les nouvelles recettes irrésistibles de Roald Dahl, illustrées par Quentin Blake, chez Gallimard Jeunesse. Perrin, ça vous parle ?
Oui, Roald Dahl, c'est une merveille. Toutes les nouvelles qu'il a pu écrire, les plus fantastiques, les plus surprenantes, bien sûr. Quel beau moment de lecture avec Roald Dahl.
Et alors là, c'est un merveilleux moment de cuisine, puisque ce sont des recettes de cuisine inspirées et importées directement de ses romans, comme les spaghettis au verre, les doigts de pied de moustique, la potion magique de Georges Bouillon, les grenouilles aux pommes, le papier peint prêt à lécher pour chambre d'enfant, les crayons caramélisés pour l'école. Toutes ces recettes, donc, proviennent de Charlie et la chocolaterie, James et la grosse pêche, la potion magique de Georges Bouillon, les deux gredins, etc. Et elles sont non seulement réalisables et drôles, mais assez faciles, en fait, à réussir, avec des colorants alimentaires, avec des astuces de mixage pour recréer des pâtes ou des boissons pétillantes, enfin voilà, de la peinture... De la peinture
brillante.
On est brillante,
bien loin du végétalisme, pour conclure.
Je pense qu'on peut y arriver sans viande.
C'est quel éditeur ?
C'est chez Gallimard Jeunesse.
Ah, encore Gallimard. Eh bien, merci, Élodie Chaumette. Je vois que Jacques Perrin, la littérature jeunesse, vous l'avez encore en tête, quoi. Vous êtes toujours surpris, toujours...
Oui, je pense. Non, je pensais à ce que vous dites, à les farces et attrapes. Il y avait une que j'aimais bien dans un film de Jacques Demy, dans laquelle je suis apparu. C'est Dame, vous mettez... Non, dans Les Demoiselles de Rochefort. Lorsque vous avez des œufs au comptoir, vous mettez des vrais œufs qui ne sont pas bouillis. Donc c'est toujours drôle, quoi. Quelqu'un qui prend un œuf, voilà, c'est facile à faire.
Oui.
Ça coûte un œuf, c'est tout.
Et peut-être un client pour le patron, mais bon. Merci Jacques Perrin, merci Stéphane Durand, merci Élodie Chaumette pour cette émission pleine de joie, de sourire et de rêve. Merci à tous. Nous quittons les chemins buissonniers et il faut revenir à la réalité. C'est l'heure, mais on peut retrouver sur le site de France Culture cette émission, la télécharger, la réécouter, trouver toutes les références des livres dont nous avons parlé. Le temps buissonnier, c'est aussi un générique, comme au cinéma, Aline Payet, Laetitia Coya, Annie Comier et aujourd'hui Élodie Chaumette. Et à la technique, voyez, il n'y avait que des femmes pour vous servir, messieurs. Élise le temps buissonnier a filé trop vite et il est déjà l'heure de retrouver le premier journal d'information de la journée sur France Culture. Bon dimanche, bonne semaine, à la semaine prochaine.